Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans la Rédac Pop, nous allons revenir sur le Forum des droits humains qui s'est tenu le 19 novembre dernier au Musée Orléanais de la Biodiversité et de l'Environnement sur le thème « Migration et exil », sous-titré « Entre fable et réalité, migration et exil au XXIe siècle ». C'était l'occasion pour les nombreuses personnes qui se sont rendues donc à ce cycle de conférences de revenir sur la réalité des chiffres avec François Héran, sociologue, anthropologue et démographe, professeur au Collège de France. Il occupe la chaire Migration et Société et il a accepté de nous accorder une interview. Il en fut de même pour Claude Calam, qui est anthropologue et directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS de Paris, dont il préside la section de la Ligue des Droits de l'Homme. Il est membre de l'espace de travail Migration d'Attaque, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Donc Claude Calam nous a parlé des causes des migrations sous la contrainte, notamment des politiques néocoloniales et des enjeux altermondialistes. Et je ne vous cache pas que ce fut très intéressant d'avoir une analyse aussi poussée par ces spécialistes donc du thème de ce Forum des droits humains qui était migration et exil au XXIe siècle. Dans une deuxième partie au cours de l'après-midi, il a été question du vécu des exilés en Europe, en France et plus précisément à Orléans. Et nous avons donc pour cela eu l'occasion d'interviewer Philippot Furie et Claire Rodier. Philippot Furie, donc anthropologue, membre du réseau Migre-Europe. Claire Rodier est également, elle aussi, membre du réseau Migre-Europe. Elle est juriste, membre du GISTI, groupe d'information et de soutien des immigrés et du réseau Migre-Europe. Voilà, je vous laisse donc écouter tous ces témoignages qui ont été récoltés au cours de cette journée, pendant laquelle Zotelli, la web TV participative du 108, était également présente pour couvrir l'événement. Mais on commence tout de suite par écouter les personnes qui ont mis en place ce Forum des droits humains. Forum des droits humains qui est un collectif d'associations, de nombreuses associations qui œuvrent en faveur, vous l'avez compris bien évidemment, des droits humains. Bonne écoute sur Radio Campus, la Rédac Pop 88.3. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Donc, je suis Françoise Labidoire, je suis présidente du réseau Forum des droits humains. Ce réseau comporte une trentaine d'associations. Voilà, et la spécificité, c'est que les présidents changent normalement tous les ans, tous les deux ans, pour justement qu'il y ait une diversité dans la gouvernance, si vous voulez. Voilà.
Alors cette année, vous avez souhaité justement faire un cycle de conférences, aujourd'hui samedi 19 novembre au musée d'Orléans, au MOB, au musée d'Orléans de la biodiversité et de l'environnement, concernant les migrations entre fables et réalité. Pourquoi le choix de ce thème ?
Ben, si vous voulez, le gros problème, c'est que, ben, ça j'apprends rien à personne, c'est que depuis deux ans, on est resté un petit peu, on n'a pas fait grand-chose, bien sûr. Et donc, y a des associations qui font partie du réseau qui se sont dit, ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'on en parle. Et on a des images complètement différentes, on entend un certain nombre de choses. Mais quelle est la vérité, entre guillemets, voilà. Mais je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, on va trouver la vérité, mais on va essayer de voir les choses qui sont réelles, avec des chiffres, avec des gens compétents, qui connaissent bien le sujet. Et j'allais dire qu'ils ne racontent pas n'importe quoi, parce qu'on a quand même un peu l'impression que c'est tout et n'importe quoi dans les problèmes des immigrés, qu'est-ce que ça veut dire, qui c'est, voilà. Donc c'est un petit peu pour faire prendre conscience aux gens de cette réalité. Est-ce que c'est des réalités? Est-ce qu'on affabule un peu sur des choses et tout ça? Voilà, c'est un petit peu pour ça que cet après-midi va avoir lieu.
On entend beaucoup d'informations erronées. À qui pensez-vous? Qui transmet, colporte ces informations erronées selon vous?
Bah, c'est un petit peu difficile. On va dire que la droite ou l'extrême droite, surtout, mais ça, tout le monde le sait, je veux dire. Mais il y a quand même des gens qui croient à ce qui s'est dit. Et c'est difficile de remettre les choses au point. Et j'espère que là, les conférenciers qui vont venir là vont remettre aussi des choses et dire, mais vous savez, quand on a envie d'entendre quelque chose, on entend que ce qu'on a envie d'entendre. Et là, on va écouter, mais les gens très, très contre l'immigration vont continuer à y être. Je ne pense pas que ça soit ça qui va les faire changer d'avis. Ce qu'on voudrait, nous, c'est que les gens qui essayent de se renseigner et là des informations intéressantes.
Je vais en profiter quand même pour faire une parenthèse et dans laquelle vous allez présenter l'association pour laquelle vous militez par ailleurs, La Vie Nouvelle.
Voilà. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que le réseau était à peu près une trentaine d'associations. Alors plus ou moins, parce que des grosses associations et des petites associations. Donc moi, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle LVN, donc La Vie Nouvelle, qui est un mouvement d'éducation populaire qui est basé sur le personnalisme communautaire d'Emmanuel Mounier, qui était un philosophe du 19e siècle et qui est décédé en 1950, voilà. Et voilà, donc si vous voulez, je ne vais pas dire travail, mais nos études, ce qu'on fait, on essaye de vivre en se disant que la personne, toute personne, mais ne peut pas vivre en dehors d'autres gens. Hein. On est une personne unique, mais elle ne peut pas se s'épanouir si elle est toute seule. Donc on a cette vision de la personne, mais autour d'une communauté, autour de gens avec qui on peut parler. Donc nous avons notre on est une trentaine hein, sur Orléans, et notre but, c'est aussi d'ensemble travailler sur un thème, d'échanger tout ça. Cette année, dans le cadre du forum, nous avions fait au mois de mars ou avril, quelque chose à la salle de la Madeleine, où nous avions réuni à peu près 80 personnes, où on avait échangé sur un thème, et une petite présentation, les gens se regroupaient en quatre ateliers, discutaient ensemble, échangeaient ensemble, et après on remettait ensemble ce qu'on avait discuté.
Donc on retrouve là encore la démarche du Forum des droits humains. Il s'agit souvent justement de réfléchir à ces questions de société concernant les droits humains, non seulement de se cultiver, de se nourrir et puis d'échanger les uns les unes les autres pour envisager l'avenir de ces droits humains.
Alors ce qui est intéressant aussi dans ce réseau, c'est que vous allez avoir des associations comme la mienne où on va plutôt avoir des réflexions autour d'un thème et tout ça. Et vous avez des associations qui, elles, agissent aussi, font des manifestations, sont plus, j'allais dire, plus dans l'action. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, de travailler avec des associations différentes. Et c'est ça qui m'intéresse personnellement, mais qui intéresse aussi tous les gens du réseau. Parce que c'est compliqué de faire vivre un réseau d'une trentaine d'associations. Mais toutes disent la même chose, c'est-à-dire c'est intéressant de travailler avec des associations différentes de celles à laquelle on appartient.
La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Je suis Marie-France Canot, je suis membre du bureau du réseau Forum des droits humains et j'ai été chargée par le forum de faire le programme de ce colloque.
Alors justement, deux invités de marque, hein, François Héran, Claude Calam, comment s'est fait ce choix ?
Alors, je crois qu'il est difficile de ne pas penser à François Héran quand on parle de migration. C'est vraiment la personne incontournable. Ses travaux au sein du Collège de France font qu'il a des chiffres sur l'immigration qu'il a vraiment travaillé, qui sont incontestables, qui sont incontournables. Pour nous, ça paraissait évident que si on faisait un colloque sur l'immigration, François Héran devait être présent, sinon ça n'avait pas de sens de faire le programme. Et Claude Calame nous a beaucoup, beaucoup aidé à construire le programme. Alors moi, je suis avec lui dans l'espace de travail migration d'attaque. Donc on a l'occasion de beaucoup travailler sur justement les causes des migrations. C'est un sujet qu'on n'aborde pas et ça nous paraissait important que les gens réalisent que on a notre part de responsabilité dans l'afflux des migrants. Mmh. Ils viennent aussi quand même beaucoup par notre faute. J'ai envie de dire, on est un petit peu schizophrène, parce que d'un côté, on veut les repousser, mais de l'autre côté, on se comporte, alors pas forcément nous, hein, nos gouvernements, les signataires des accords de libre-échange ou les accords de partenariat économique avec l'Afrique, mais on a une lourde responsabilité dans la venue des migrants.
Alors une première partie très factuelle, une deuxième partie qui concerne plus l'analyse. Et là donc pendant la pause, les personnes présentes peuvent aller visiter une exposition mise en place par la CIMAD concernant les centres de rétention administrative. Et ça va être la dernière partie donc de ce cycle de conférences où il va être question de la rétention administrative. Alors, notamment.
Pas uniquement, si je peux me permettre, on va d'abord parler avec on va commencer par Claire Rodier du GISTI qui va nous expliquer les conditions d'accueil des migrants en France avec justement la différence assez impressionnante entre l'accueil des Ukrainiens et l'accueil des autres migrants. Quand on voit le sort qui a été réservé aux Syriens et celui qui a été réservé aux Ukrainiens, il y a vraiment un gap abyssal. Ensuite, Filippo Fiori va nous parler de ce qui se passe en Europe, et notamment aux frontières de l'Europe, hein, entre la frontière de la Turquie et de la Grèce, il y a des atrocités, mais pas uniquement là. Je pense qu'il va aussi souligner la différence entre les politiques qui sont mises en place au niveau des États ou au niveau de la Commission européenne et les réactions des populations et de la société civile où il y a beaucoup de mobilisation pour aider les migrants. Donc ça, je pense que c'est un point important. Ensuite, effectivement, Christian Hébert va nous parler de la Ligue des droits de l'homme, des centres de rétention administrative. L'exposition de la CIMAD concerne celui du Ménilamno. Alors, il y a très peu d'associations qui sont habilitées à rentrer dans les centres de rétention. La CIMAD fait partie des rares associations habilitées. L'exposition qui est présentée, il y a des photos des gens qui ont été retenus, mais il y a surtout des flashcodes qui permettent d'entendre des enregistrements, des témoignages sonores absolument poignants des gens qui sont enfermés dans les centres de rétention.
Alors évidemment, on pense à celui d'Olivier, hein, qui est en construction à côté de l'université.
Et près de l'autoroute, pour pouvoir expulser facilement.
Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi cette année de parler de ce thème, migration entre fable et réalité.
Alors, entre fables, les migrations, parce que je pense que c'est quand même, quand on s'intéresse aux droits humains, un domaine où les droits humains sont violés. Et énormément violé, ce qui devrait quand même interpeller les citoyens du pays qui se revendiquent comme la patrie des droits de l'homme. Donc ça nous paraissait un sujet qu'il fallait traiter absolument. Et entre fable et réalité, parce que je pense que l'exposé de François Héran a bien montré, d'un côté on nous parle d'envahissement, on serait absolument submergé par les demandes d'asile, on est menacé d'un grand remplacement. Or les chiffres démontrent tout autre chose. Il y a eu beaucoup moins d'arrivées de migrants en France qu'en Allemagne. La population d'émigrés en France, elle est de 10%. En Australie ou en Suisse, c'est 30%. Aux États-Unis, c'est 15%. Donc on n'est pas du tout. Enfin, il y a une distorsion phénoménale entre les discours, la présentation qui est faite dans les médias et la réalité. Donc ça nous paraissait quand même important que les gens entendent la réalité.
Alors, qu'est-ce que cela dit de notre démocratie ?
Ouais. Ça, c'est une question très difficile, mais je pense que ça veut dire que notre démocratie est très malade. Alors là, je n'engage absolument pas le réseau Forum, ni qui que ce soit d'autre que moi, mais personnellement, je suis extrêmement préoccupée de voir que la plupart des médias aujourd'hui appartiennent à des multinationales et il est évident que du coup, les journalistes n'ont pas la liberté d'expression. Les accords de libre-échange, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui va façonner notre futur. C'est un espèce de transfert du pouvoir des gouvernements vers les multinationales et on n'en parle pas dans les médias. Et le public n'en aurait jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu un parlementaire belge courageux, Paul Magnette, qui a refusé de signer le CETA et qui, du coup, a réussi à ouvrir une petite fenêtre médiatique sur le sujet, mais qui s'est vite refermée.
Ah oui, donc l'importance des médias est telle qu'elle influe dans les trois autres pouvoirs.
Je crois que les médias, alors pas tous, Dieu merci, il y a encore des médias indépendants, mais tous ceux qui appartiennent à des multinationales, pour reprendre l'expression de Noam Chomsky, façonnent, fabriquent l'opinion publique.
Bourdieu en a parlé par ailleurs aussi en France.
Pour moi, c'est très préoccupant, effectivement, pour la démocratie. Je pense que le citoyen doit être bien informé pour pouvoir faire ses choix en connaissance de cause. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile de bien s'informer.
Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'était votre souhait, justement, d'informer les personnes présentes, venues nombreuses, vous avez reçu du monde, de les informer et de leur donner des éléments de compréhension.
De leur donner des faits, des réalités concernant l'immigration. Bien loin des fables construites par les médias et certains partis politiques.
Alors, le Forum des droits humains, c'est bien évidemment ce cycle de conférences aujourd'hui, mais pas seulement.
Alors, pas seulement. Le Forum des droits humains, il existe depuis longtemps, sous cette forme depuis 2003. Et on se considère comme une association d'éducation populaire. Alors, bien sûr, il y a eu un arrêt, comme pour beaucoup d'associations, pendant la pandémie. Donc là, on redémarre avec ce colloque sur l'immigration. Mais on a bien l'intention de poursuivre avec d'autres colloques. Alors, le Forum, c'est lui-même une association d'une trentaine d'associations qui ont comme point commun de toutes se préoccuper des droits humains, mais dans différents domaines. Donc, vous aurez d'autres événements du forum dans le futur.
Les médias, la place des médias, que l'on pourrait même que certains qualifient de quatrième pouvoir. Je ne peux pas m'empêcher de faire le rapport, et vous allez me suivre, entre Vincent Bolloré, qui détient CNews, sur la chaîne sur laquelle s'est largement exprimé Éric Zemmour, qui était notamment l'auteur de nombreuses fake news sur l'immigration. Ça entre vraiment en lien avec l'actualité.
Les jeunes sont tous des violeurs, enfin, etc., ce qui est une contre-vérité absolue. Moi, je connais beaucoup de jeunes mineurs non accompagnés, donc vous imaginez bien que quand un jeune de 14 ans, 15 ans quitte sa famille et son pays seul, c'est qu'il y a des drames derrière et que c'est absolument épouvantable. Ce ne sont pas des violeurs, ce sont des jeunes complètement perdus. Souvent, on refuse de reconnaître leur minorité. Et du coup, ils se retrouvent ballottés parce qu'ils ont un passeport qui dit qu'ils sont mineurs, un État français qui ne reconnaît pas leur minorité. Et Hannah Arendt disait « Tout être humain a le droit d'avoir des droits où aucun être humain n'est illégal. Ces mineurs non accompagnés dont on ne reconnaît pas la minorité, je crois que malheureusement, dans l'État français, on les prive de droits. »
La rédac pop de Radio Campus Orléans.
François Iran, je suis professeur au Collège de France sur la chaire Migration et Société, et j'ai été invité, comme ça m'arrive souvent, par ce forum du réseau des droits humains à Orléans. Et souvent, quand on m'invite dans des villes de France où des militants s'activent, j'essaie de répondre positivement. À l'origine, j'ai beaucoup travaillé dans l'Institut national de la statistique. J'ai été directeur de l'Institut d'études démographiques pendant une dizaine d'années. Donc c'est vrai que je suis très attaché aux faits, aux données quantitatives, comparative dans le temps, dans l'espace, quelle est la place de l'immigration en France comparée à ce qu'elle peut être dans les autres pays européens ou dans le reste du monde occidental ou ailleurs. Par ailleurs, j'ai été ethnologue aussi autrefois en Bolivie, en Amérique latine, et donc j'ai monté un institut où on essaie d'avoir le plus possible des chercheurs qui travaillent sur les pays d'origine et pas seulement sur les pays de destination. Je crois que c'est un élément important pour comprendre les flux migratoires.
Bien sûr. Et donc oui, voilà, vous êtes attaché aux faits. Il y a beaucoup de faits erronés qui ont été médiatisés. Alors je pense notamment à la campagne présidentielle. Donc on a entendu des chiffres qui tournaient autour des 2 millions.
Les campagnes électorales sont des grands moments de prolifération d'idées fausses. Bon, par exemple, l'idée que l'exil des Syriens serait été un tsunami qui aurait envahi l'Europe, et qu'on aurait été inondé, etc. Bon, bah, quand on regarde les faits, en réalité, nous n'avons eu qu'une toute petite partie des Syriens qui ont réussi à déposer une demande d'asile en Europe, hein, 4% d'entre eux, pas plus, alors que la France, c'est quand même à peu près 15% de la population européenne, 17% de sa richesse, ce serait ça à la part de la France, quelque chose comme 16% en gros. Donc nous sommes très très loin d'avoir pris notre part, et vous regardez, c'est la même chose pour les Irakiens, on a fait un peu mieux pour les Afghans. Les Ukrainiens, finalement, on aurait dû plutôt en accueillir 400 000 que 100 000 si on avait vraiment pris notre part. Donc, je donne juste un chiffre, il est quand même stupéfiant. Nous avons accueilli 17 fois moins de Syriens que les Allemands. 17 fois moins. Alors, bien sûr, l'Allemagne est un pays plus peuplé. Si on ramène l'Allemagne aux proportions de la France, ça fait 14 fois, hein, de 1 à 14. Le diagnostic ne change pas, et vous voyez que c'est quand même considérable. Donc la France connaît une montée, alors au-delà de l'asile, une montée de l'immigration qui est nette, il n'y a aucun doute possible. Depuis 2000, l'immigration monte de façon continue, quels que soient les présidents en place. D'ailleurs, ils surestiment complètement leur pouvoir là-dessus. Mais en fait, c'est moins que ce qui se passe dans l'ensemble de l'Europe et surtout dans l'ensemble du monde. Depuis 2000, la migration a progressé de 60% dans le monde entier. Chez nous, c'est même pas 40%. Et donc la question, c'est est-ce que la France peut raisonnablement se tenir à l'écart d'une lame de fond de ce grand mouvement d'essor de la migration qu'on observe partout dans le monde? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut changer de récit et qu'il faut expliquer aux gens qu'il va falloir faire avec les migrations, et l'idée de s'en débarrasser, se tenir à l'écart, est une idée que je qualifie d'immature, enfin d'irréel. Il y a un déni d'immigration comme il y a un déni de grossesse, vous voyez.
Alors, un déni d'immigration, et on pourrait aussi, par exemple, avancer ce chiffre, que la France est en 13e position seulement au niveau européen en termes de... dans les pays d'accueil. Ce n'est pas la France, comme vous le disiez d'ailleurs, qui accueille le plus d'immigrés. Et puis que les chiffres ne sont pas si hauts qu'ils ont pu être pris en
compte. Une erreur très très commune, c'est de raisonner en chiffres absolus.
Oui.
Évidemment, la France étant un des trois pays les plus peuplés d'Europe, enfin un des quatre pays les plus peuplés d'Europe, derrière l'Allemagne, au même niveau que l'Italie et la Grande-Bretagne, les chiffres absolus sont impressionnants, mais il faut ramener le nombre d'exilés qu'on accueille en France, à qui on accorde l'asile, etc., à la population de la France. Qu'est-ce que ça représente par habitant? Et c'est là qu'on constate que, loin d'être en tête, on est aux alentours, effectivement, du 13e rang, du 14e rang. Enfin, on est dans le milieu du classement, une position plutôt modeste. Et donc, en plus, nous savons que la migration, finalement, rapporte plus au budget public qu'elle ne coûte. Ça a été démontré X fois, notamment par un rapport de l'OCDE qui est tout récent. Et le problème, à mon avis, c'est qu'on n'entend pas des discours ministériels, présidentiels, qui valorisent tout ça, qui iraient à l'encontre de tout un discours anti-migrant qui est ressassé par certains médias. Et voilà, et le problème, c'est que quand on répète mille fois des faits erronés, ça finit par devenir des vérités.
Les chiffres sont pourtant accessibles sur le ministère, sur le ministère de l'Intérieur, sur le ministère de l'OFI.
Alors, on a effectivement une sur la question migratoire une qualité de la statistique qui s'est considérablement améliorée depuis 15 ans. Ce n'était pas le cas dans les années 70. On a effectivement les chiffres du ministère de l'Intérieur qui donnent une idée des titres de séjour extrêmement précises, qui montrent par exemple que la migration familiale a reculé depuis 2005 au lieu d'augmenter, contrairement à ce que l'on croit. On a les données aussi d'Eurostat, qui est l'office statistique de l'Union européenne, qui, c'est une obligation légale, recueille des chiffres extrêmement précis tous les trimestres de tous les pays d'Europe. Et il y a une harmonisation des données qui est très bien faite. Et puis on a aussi les statistiques de l'ONU qui font des compilations mondiales. Donc on a maintenant des bases de données. Alors prétendre que tout ça est faux ou que la France serait le seul pays où les statistiques seraient fausses, enfin, c'est complètement absurde. Il y a un très grand nombre de gens qui travaillent intensément par des enquêtes, par des recensements, par des analyses sur tout ça, et il faut en tenir compte.
Mmh. Alors, vous êtes un expert de la question, vous l'avez rappelé en introduction que vous avez travaillé pour l'INSEE, que vous vous attachez beaucoup aux faits, et pourtant, on constate un décalage donc, entre la réalité, et donc, c'est le thème aujourd'hui, entre oui. fable et réalité. Est-ce qu'on pourrait parler donc, de xénophobie, de cette peur fantasmée de l'étranger, dont on exagérerait le nombre, que l'on considérerait presque comme une menace? Est-ce qu'il serait là le problème encore?
Il y a un peu l'idée, évidemment, cette idée est fortement renforcée dans les périodes de crise économique comme celle que l'on a en ce moment. Dans les périodes de crise économique, on a l'idée que nous devons tous nous partager un gâteau de taille fixe. Mmh. Dans les périodes d'expansion, on a l'idée que le gâteau s'accroît et qu'il y en aura pour tout le monde. Et là, dans ces périodes de crise, donc, par exemple, l'idée que les migrants vont ponctionner la protection sociale et donc affaiblir nos droits, c'est une idée qui est très répandue. Elle était très très forte dans les pays anglo-saxons. Elle se répand maintenant avec l'extrême droite, mmh. pas seulement l'extrême droite, une droite assez classique. Bon, le problème, c'est que quand on regarde, là encore, les données, quels sont les pays qui ont accueilli le plus de migrants depuis l'an 2000, ben, c'est justement les pays qui ont une faible protection sociale. Ce sont les États-Unis, c'est l'Espagne. Donc l'idée qu'automatiquement, une protection sociale généreuse attirerait les migrants qui viendraient ici pour l'appât du gain, enfin, c'est ça qui est une idée fausse, là encore. Il y a beaucoup plus de contre-exemples que d'exemples, vous voyez. Mais c'est vrai qu'en présentant les immigrés comme une concurrence déloyale, en quelque sorte, au peuple français, et notamment aux classes populaires, on crée des tensions, un ressentiment anti-immigré qui est fort, et ce sont des stratégies politiques qui consistent à exploiter ce ressentiment en alléguant des chiffres qui ont été complètement faux. Enfin,
et en actionnant des leviers de la peur, quand même. Donc, je pense à la phobie, parce que les peurs sont souvent liées à une forme d'ignorance.
C'est vrai. Alors, il y a aussi le fait que depuis les années 80, l'immigration est beaucoup plus visible qu'elle n'était avant. En 75, en 82, qui étaient les années de recensement, il y avait à peu près 20% des immigrés qui venaient du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, c'est plus de 40%. Donc ça, c'est un changement qui est visible. Hein. Et du coup, l'aspect physique, en fait, il y a une hiérarchie raciale qui, en même temps, correspond à une hiérarchie de la distance, la distance culturelle. Mais ça, c'est Claude Calame en parlera mieux que moi, qui, effectivement, gouverne beaucoup nos peurs. Enfin, on a peur de l'étranger lointain qui appartiendrait à une toute autre civilisation. Enfin, ce sont ces choses-là qui sont entretenus et exploités par des courants politiques de plus en plus qui se nourrissent de ça.
La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Claude Calame, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, pour un enseignement qui s'intitule « Littérature grecque, ancienne et société ». Et sinon, j'interviens ici à la fois en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme et membre d'ATTAC.
Mmh. D'accord. Et alors, quel va être l'objet de votre conférence aujourd'hui ?
L'interrogation dont j'aimerais présenter les termes aujourd'hui, elle porte en fait sur les causes de ce que l'on dénomme les migrations et les migrations contraintes, c'est-à-dire les migrations auxquelles sont contraintes un certain nombre, ou les formes d'exil auxquelles sont contraintes un certain nombre de personnes qui tentent de trouver refuge d'une manière ou d'une autre dans les pays de l'Union européenne. Mmh. Tout en précisant encore à propos d'immigration contrainte que ce mouvement migratoire spécifique est beaucoup moins important en ce qui concerne l'Europe qu'en ce qui concerne les pays du Sud, puisque à la fois les déplacements et l'immigration se font en général de pays du Sud à pays du Sud.
L'immigration contrainte, on peut penser aux causes de la guerre, on peut penser aux causes de la famine, aux causes du chômage. Et puis, alors, M. Errand en a parlé un peu tout à l'heure en disant que justement, cette question, il fallait la prendre à bras le corps, justement, il ne fallait pas l'écarter. Et je ne peux pas m'empêcher là de penser au réchauffement climatique qui va encore mettre, placer une nouvelle contrainte de migration.
Alors, les problèmes que j'affronte en m'interrogeant sur les raisons des migrations contraintes, il y a d'abord un problème évidemment d'ordre humanitaire. Hein. Pourquoi ces personnes qui perdent la vie dans leur tentative de traverser la Méditerranée au large des Canaries, même désormais dans la Manche. Et là, il y a toute une réflexion à faire sur le respect des droits, non seulement des droits de la personne, mais surtout des droits sociaux qui sont tout simplement inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, par ailleurs, il y a naturellement le versant politique. Quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes tentent d'une manière ou d'une autre de franchir les frontières méridionales de l'Union européenne pour tenter d'une manière ou d'une autre aussi d'y trouver un refuge. Et là, je vois les effets, c'est évidemment le nombre d'attaques qui parle ici, je vois les effets pernicieux, les effets destructeurs aussi de ce grand mouvement qu'on appelle le grand mouvement de la mondialisation, un mouvement qui s'est opéré selon des critères essentiellement économiques et donc financiers et qui ont finalement abouti à soumettre, disons, les pays du Sud ou des Sud à des rapports de domination et de domination néocoloniale au profit des pays des plus riches, États-Unis d'un côté et naturellement Union européenne ou Europe de l'autre. Avec pour conséquence, alors, des faits de guerre. Naturellement, pensez à la guerre d'Irak, dans une certaine mesure la guerre d'Afghanistan, la situation aussi en Syrie dont l'Union européenne a quand même été, sinon la complice, en tout cas n'est pas intervenue comme elle aurait pu dans ce domaine. Il faut aussi penser naturellement au conflit en Érythrée, au Soudan, pensant naturellement à la Libye et désormais au Mali. Par exemple. Mais par ailleurs, ce grand mouvement de nouvelle domination sur, en ce qui concerne l'Union européenne, d'un côté le Moyen-Orient, mais surtout l'Afrique subsaharienne, il a eu pour conséquence des investissements des pays du Nord dans les pays du Sud par l'intermédiaire des traités de libre-échange. Il a eu pour conséquence aussi ces mesures d'ajustement structurel. C'est les pays les plus endettés qui ont été soumis à différentes mesures par les grandes institutions financières internationales, le FMI, la Banque mondiale, avec pour effet soit la privatisation, soit même la disparition, ou en tout cas la diminution des quelques services publics existants, je pense naturellement dans le domaine de la santé, hein, essentiel, mais aussi dans celui de la formation, les écoles, tout simplement, avec les investissements aussi des multinationales, accaparement des terres, transformation des terres arables en grands champs
en mine, par exemple.
Plantation, et puis, naturellement, l'exploitation. Et une exploitation qui est double. Il y a d'une part l'exploitation de ce qu'on appelle, et ce n'est pas un hasard, les ressources dites naturelles, alors qu'il s'agit de ressources environnementales. Et puis d'autre part, l'exploitation du travail aussi, hein, par délocalisation interposée, par exemple. Et ce n'est pas un hasard non plus que désormais, cette force de travail, on l'appelle ressource humaine.
Et c'est pour ça donc que vous parliez de néocolonialisme tout à l'heure.
Tout à fait. Et c'est justement l'énorme paradoxe, hein, de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne serait-ce que vis-à-vis des centaines de personnes qui chaque année perdent la vie en Méditerranée ou au large des Canaries, et désormais même dans la Manche, c'est que nous fermons les frontières de la France en particulier et de l'Union européenne de manière plus générale aux personnes qui sont les victimes du bien-être, qui est un bien-être évidemment tout à fait matériel et bien superficiel dont nous bénéficions.
La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Bonjour, Philippe Fourré, gestionnaire individuel du réseau Migre Europe. Et mon intervention portera sur la question de la dimension externe de l'asile et de la gestion de frontières de l'Union européenne et sur les alternatives possibles, notamment pour ce qui concerne des solidarités entre villes et sociétés civiles.
Bonjour, je m'appelle Claire Rodier, je suis membre du GISTI, c'est une association française de défense des droits des personnes étrangères. Je suis aussi membre du réseau Migre Europe, comme Philippot. Et mon intervention va porter sur le contraste entre le traitement qui a été réservé aux ressortissants ukrainiens qui sont arrivés à partir de la guerre en Ukraine en février 2022 et la façon dont la France traite ce qu'elle appelle les migrants, avec une connotation assez péjorative dans ce terme, qui a été particulièrement illustrée par les conditions d'accueil, entre guillemets, des rescapés du bateau Ocean Viking qui est arrivé la semaine dernière à Toulon.
Alors, vous faites partie tous les deux du réseau Migre Europe. C'est quoi ce réseau ?
Le réseau Migre Europe, c'est un réseau euro-africain d'associations, d'ONG, mais aussi de chercheurs universitaires qui a été créé au début des années 2000 et dont l'objet est la défense des droits des personnes en exil, notamment dans le parcours migratoire, passage des frontières, et tout pour dénoncer, décrypter, mais aussi documenter à travers des rapports, des analyses, des missions d'enquête, la situation, les mauvais traitements et les violations des droits des personnes qui sont commises comme conséquence de la surveillance des frontières, du contrôle des frontières et de la non-application, il faut le dire, le plus souvent des droits fondamentaux, notamment du droit d'asile, dans la perspective euro-méditerranéenne et euro-africaine.
La Rédac Pop, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt sur Radio Campus 88.3. Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.